Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde sur l'ennemi versus la première ligne de défense. J'ai à mes côtés trois spécialistes des virus qui vont nous raconter plein de choses extraordinaires sur les virus. Je viens d'en apprendre plein dans les coulisses là, vous allez voir, c'est fascinant. Et donc je vais commencer par vous les présenter d'abord. Donc Sandrine Munier qui travaille à l'Institut Pasteur, Philippe Afonso qui travaille également à l'Institut Pasteur et Blondine Monel qui travaille à l'INSERM. Et je me suis dit que comme on était quand même aux Utopiales, j'allais commencer par leur poser une question en lien avec ce qu'ils ont vu, lu, qui a pu les énerver, les agacer ou les épater dans des films ou des romans de SF. Et je vais commencer par Sandy.
Bonjour. Vas-y. Ouais. Bonjour à tous. Donc moi, un livre de SF que j'ai particulièrement aimé, dans lequel on parle de virus, c'est la variété Andromède. Enfin, en réalité, non, c'est pas un virus, c'est une bactérie. Mais donc c'est un roman de Michael Crichton où les Américains envoient une capsule dans l'espace pour essayer de récupérer des virus ou des bactéries extraterrestres. Et la capsule retombe sur Terre, s'écrase dans un village aux États-Unis et décime toute la population. Et il y a juste deux survivants, un bébé et un vieillard. Et il y a une équipe de scientifiques qui est dépêchée pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'étudier la souche en question, qui s'appelle donc la variété Andromède. Et voilà, donc il y a un laboratoire secret dans lequel ils vont aller et puis étudier cette souche et pourquoi ces deux individus ont résisté. Et voilà. Et donc, moi, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que c'était l'aspect vraiment scientifique qui était vraiment bien mené. Voilà.
Donc, on pourrait imaginer que des scientifiques aujourd'hui se comportent exactement comme ceux du bouquin.
Oui, tout à fait. Parce que vraiment, ils avaient constitué une équipe avec des spécialistes des virus, des bactéries, des épidémiologistes, des immunologistes, voilà, des gens qui travaillaient sur les molécules pour combattre la maladie. Et donc, tous ces gens-là étaient ensemble dans un même laboratoire à essayer de comprendre ce qui se passait.
Philippe ?
Alors bonjour, en ce qui me concerne, je connais pas trop bien la SF, donc c'est la première fois que je viens ici, donc je découvre. Mais il y a 10 ans, j'ai vu un film qui s'appelle Antiviral de Cronenberg et qui donne une vision des virus relativement différente de celle à quoi on est habitué. Usuellement, on essaie de les éviter. Et là, c'est plutôt des gens qui cherchent à récupérer le virus de leur star préférée, acteur, sportif, etc. et qui voulaient être infectés avec la même particule virale que la star, et forcément ils étaient déçus parce que ça donnait pas la même chose sur leur visage que chez leur star. Il y avait plein de marchés noirs associés, des virus mutants évidemment, et c'est une façon de voir le virus comme un objet qu'on pourrait vouloir, alors pas tous, hein, mais en l'occurrence voilà, qui était vraiment recherché plutôt que échapper ou essayer d'éviter l'infection virale. Là, ils voulaient le récupérer. Donc un objet un peu genre NFT de votre acteur préféré, quoi.
Et ça l'avait amusé ?
Il est très malaisant, donc faut être bien accroché parce que voilà, en fait, on a quand même quelqu'un qui se surinfecte de façon multiple, et en tant que virologue en général, on essaie quand même d'éviter ça. Mais oui, c'est amusant de se dire que pourquoi pas dans un monde futur, ce sera plus l'Instagram ou je sais pas quoi, mais une part de la star préférée.
Blandine ?
Alors moi, pour ma part, j'ai eu une période SF où j'aimais bien lire des bouquins et tout ça, mais à chaque fois, j'évitais un peu tout ce qui tournait autour un peu des virus, surtout les films, parce que des fois, ça avait tendance un peu à m'énerver. Et puis un jour, il y a mon mari qui aime bien ça, et qui m'a fait regarder un film. Et c'était Contagion de Steven Soderbergh. Il est sorti en 2011, je crois. Donc on l'avait vu il y a quelques temps, et j'ai été agréablement surpris, en fait, parce que pour une fois, j'ai été un peu épatée que au niveau épidémio, ça faisait du sens, c'était pas ridicule entre guillemets, voilà. Et du coup, oui, parce qu'ils ont travaillé, j'ai appris après qu'ils avaient travaillé avec des épidémiologistes américains. Donc des gens qui travaillent vraiment sur les virus et qui étaient professionnels, et ça se sentait dans le film. Donc j'ai été agréablement épatée. Et puis c'est un film qui parle d'une contagion d'un virus qui apparaît, un virus émergent, qu'une dame l'a attrapé à Hong Kong et le ramène en avion et tout ça, et ça se propage par contact. Enfin bon, ça rappelle très fortement SARS-CoV-2, n'est-ce pas ? Enfin le Covid-19. Et du coup, je l'avais revu avec pendant l'épidémie. Donc ça faisait réfléchir, et c'était assez pertinent. J'avais été assez surprise, oui, de ce film. Voilà.
Je crois que beaucoup de gens l'ont revu justement à l'occasion ouais, de la pandémie de Covid-19.
C'est vrai que
c'était assez réaliste et même un peu effrayant de voir à quel point ils avaient raison en fait, et que tout ce qui se passe dans le film s'est quasiment passé en réalité, quoi, avec même le chercheur fou. Enfin voilà, le.
Ouais. C'était bien fait, ouais. Mais je crois que d'ailleurs c'était tellement scientifique que ça pouvait déplaire au grand public des fois, parce que c'était un petit peu trop pointu sur certains aspects scientifiques. Donc voilà. Mais non, c'était intéressant, ouais, comme film.
On est parti de la SF. Est-ce qu'il y a dans les médias des choses qui vous agacent sur les virus et que vous aimeriez, enfin voilà, vous avez la possibilité ici de rectifier le tir sur un certain nombre de choses. Ne dites plus, mais dites plutôt.
Dans les médias, je sais pas. Mais pour revenir juste à la SF, et on en discutait tout à l'heure, c'est vrai que dans les films et tout ça, des fois. C'est marrant, mais ils trouvent assez rapidement un vaccin ou un remède et tout ça. Ça va. L'échelle de temps n'est pas forcément la même que dans la réalité, et ça peut faire un peu dans l'opinion du public. Du coup, on a vu ça avec SARS-CoV-2. Je pense que ça a été super rapide pour nous là de trouver un vaccin pour le Covid-19, et je pense que dans la tête des gens du grand public, c'est pas forcément le cas, où ils réalisent pas trop que ça prend vraiment du temps. De faire ces vaccins et tout ça. Et donc je pense que des fois les films de la SF où c'est rapide, où ils trouvent en quelques mois, en quelques semaines un vaccin, enfin voilà, des fois ça fait sourire, et ça peut participer un peu dans le grand public, ce qui peut penser de la science des vaccins. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
on peut aussi dire ne dites plus qu'un virus vous rend zombie, parce que c'est quand même beaucoup ce qu'on voit dans la littérature ou dans le cinéma. Il n'y a pas à ce jour que je sache de virus qui rendent zombies, même s'il y a des très bons films là-dessus. Par exemple, un film sur les zombies et les virus, il y a Le Dernier Train pour Busan, qui est un film, alors je ne sais plus si c'est coréen ou japonais, où justement, c'est très intéressant parce que c'est dans un train, et ça rappelle l'importance, pour revenir à l'avion, du transport dans la propagation virale. Et rappeler que vous êtes à Nantes, peut-être des Parisiens, que pendant le Covid, tout le monde a fui Paris, en se disant ça va être super dangereux, et en se faisant, on transportait le virus. Et c'est exactement ce de quoi traite ce de quoi traite ce film. Donc l'idée du le transport comme la raison pour laquelle les virus se propagent aussi vite, je trouvais ça bien vu.
Il y a aussi Je suis une légende, où pareil, il y a aussi un virus qui se transforme tous les gens en zombies. C'est vrai que c'est un thème assez récurrent dans la science-fiction. Mais bon, c'est vrai qu'à ce jour, on a le virus de la rage qui transforme pas quand même les gens en zombies. Voilà, donc savoir qu'est-ce qu'il faut pour transformer les gens en zombies.
Et souvent, les gens, même s'ils ont la rage, commencent pas à mordre comme des malades leurs voisins. Les humains font quand même un effort en général pour pas mordre, pas se mordre les uns les autres.
On parlait d'origine extraterrestre des virus. Est-ce qu'il faut craindre des virus d'origine extraterrestre ? Et on parle également actuellement, on a le réchauffement climatique, on a le permafrost, etc. Beaucoup de gens se disent, il y a des virus là-dedans qui pourraient nous contaminer. Comment vous vous positionnez par rapport à ce genre de crainte ?
Alors, pour les virus extraterrestres, il y a quand même une notion qui s'appelle la barrière d'espèce, où un virus qui infecterait un extraterrestre ne sera pas forcément capable d'infecter un homme. Donc je dirais que c'est peut-être cela qu'on a le moins à craindre. Pour le permafrost, c'est vrai qu'il peut y avoir des virus que l'on pourrait retrouver là-dedans, mais après, ces virus ne seraient probablement pas infectieux. En fait, le virus de la grippe de 1918, il a été reconstitué à partir de prélèvements du permafrost. Le virus n'était pas infectieux, réplicatif, etc. En fait, ça a servi à décoder son matériel génétique pour pouvoir le refabriquer après en laboratoire, parce qu'on est capable de faire ça pour certains virus, de reconstituer à partir de la séquence génétique complètement en laboratoire la souche virale. Donc, c'est ce qui a été fait pour le virus de 1918. Mais voilà, donc c'est le prélèvement initial nous a servi à retrouver la séquence du virus, mais pas le virus infectieux en lui-même. On a dû le reconstruire.
Pour le virus de l'espace, on peut penser l'opposé aussi. Peut-être que nos virus vont nous protéger des aliens. Parce que s'ils viennent et qu'ils s'infectent avec nos virus qu'ils n'ont jamais rencontrés, c'est peut-être eux qui seront malades et vont nous débarrasser. C'était un peu le plot de la série V, pour ceux qui sont un peu moins jeunes. Qui l'avait vu, au final, la toxine rouge les a sauvés alors que ça faisait rien aux humains. Donc, comme quoi, les virus peuvent nous protéger plutôt que être la cause de nos maladies.
Ça signifierait qu'on ait quand même des morphologies, en tout cas des organismes relativement compatibles.
Oui, évidemment. En fait, les virus coévoluent avec leur autre. Donc, comme disait Sandy, il y a des barrières d'espèces. On n'est pas facilement infectable par à peu près tout. Bon, même si la variole du singe peut infecter l'homme, même si le HIV vient du singe. Enfin, tout ça, on est des animaux relativement proches. Mais imaginez que des extraterrestres qui ont une génétique, je ne sais même pas si on pourra parler de gènes, ils ont peut-être ce ne sera peut-être pas du carbone, mais de la silice, qui sait de quoi sont faits ces extraterrestres. Imaginez que ces choses soient compatibles avec notre vie qui a évolué sur Terre depuis aussi longtemps. Il faut quand même des interactions physiques, biologiques, protéiques qui seront quand même très peu probables. Sauf si c'est Dieu qui a créé à plusieurs endroits sur Terre.
Pour revenir à ça, j'ai fait un stage en astrobiologie, justement, où... c'est dingue. Et du coup, on étudiait les virus et les bactéries qu'on trouvait dans des sources chaudes et très acides. Et pourquoi ? Parce que sur certaines planètes ou certaines lunes, là c'était les lunes de Jupiter par exemple, on retrouve un peu, on pense que ce sont un peu les mêmes conditions acides et de très fortes températures. Donc ce qu'on faisait, et ça c'est aussi en partenariat avec la NASA, on étudie ce qui existe sur Terre dans ces conditions-là, donc de fortes chaleurs et très acides, pour prévenir en fait, pour se dire peut-être que sur d'autres planètes, on pourrait trouver des virus un peu comme ça. Et ces virus-là sont évidemment incapables d'infecter l'homme, parce que ce n'est pas du tout les mêmes conditions, comme il disait. C'est complètement différent, donc ils ne s'adaptent pas à l'homme et ils ne sont pas infectieux du tout pour l'homme. Donc de là à être inquiet, des virus qui viennent de l'espace, non, on ne sait pas, mais voilà.
Un virus qui est dans une source chaude, je suis très naïve. Qu'est-ce qu'il fait là et comment il se multiplie ?
On découvre de plus en plus qu'on trouve des virus et des bactéries, surtout des virus vraiment partout. Et là, donc ça, c'était des sulfolobus, c'était des virus qui infectent des archébactéries. Qu'est-ce qu'ils font là ? Il y a de la vie un peu qui s'adapte un peu partout, quoi. Et les bactéries étaient là, les virus infectent les bactéries, et donc ils se développaient comme ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Ça, c'est une grande question. Ils se nourrissent de soufre et ils se multiplient. Après, ils participent à l'environnement de ce genre de trucs. Ils nourrissent peut-être des micro-organismes dans ces...
D'un point de vue évolutif, on peut voir les virus de deux façons. Soit comme un gène égoïste, donc quelque chose qui doit se répliquer et qui vit comme ça, soit quelque chose qui est dérivé d'une transmission intercellulaire qui était en fait à l'origine de la communication et qui ensuite a dérivé et a pris un peu son autonomie. Et donc évidemment, si vous avez des bactéries pour qu'elles communiquent entre elles, il leur faut des mécanismes, des moyens, donc un virus pourquoi pas. Et ceci a ensuite pris le pas et est devenu autonome et s'est répliqué comme ça. Mais on parle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des exosomes qui sont des particules lipidiques, enfin des petites vésicules que toutes les cellules relarguent en permanence et qui sont importantes dans la communication intercellulaire. Et donc les virus pourraient dériver des exosomes ou vice-versa, on ne sait pas trop. Mais donc, tout organisme a associé, toute cellule a un virus associé ou des virus associés.
Et on les appelle virus, ces petites choses-là ?
Alors, l'exosome, non. Mais après, c'est un peu la limite de la définition. On ne sait plus où se termine l'exosome, où commence le virus. Voilà. C'est vraiment des problèmes de définition, après, de sémantique qui nous sont propres. Non ?
Je relance sur autre chose. Donc, j'ai parmi vous, donc, il y a Philippe qui est spécialiste des virus qui passent les barrières du cerveau, si j'ai bien compris. Une chose assez intrigante, qui reste intrigante, à savoir qu'on peut être porteur d'un virus, enfin, sans être touché par une maladie. Par contre, on a des maladies qui sont quasiment systématiquement liées à la présence d'un virus. Est-ce qu'on peut prévoir, du coup, si un porteur d'un virus va être malade ou pas, et est-ce qu'on a une possibilité, est-ce qu'on aura une possibilité à long terme de faire ça ?
Sûrement, enfin, on espère. Alors, la majorité des virus ne donne pas de maladie, et la majorité des gens infectés par des virus qui rendent potentiellement malades, ne seront pas malades. On a le très bon exemple de SARS-CoV-2. On vous rappelle que, heureusement, toutes les personnes qui étaient infectées n'étaient pas malades, ce qui posait aussi le problème du porteur asymptomatique qui pouvait transmettre le virus. Ensuite, comment est-ce que l'on sait ou peut prédire qui va tomber malade ? Souvent, c'est associé à la charge virale. Donc, plus vous avez reçu de virus au moment du contact, plus vous avez de chances de tomber malade parce que vous avez une réplication qui sera importante. En tout cas dans le cas de l'HCLV, dans le cas que j'étudie, et aussi dans les virus neurotropes, donc en l'occurrence je travaille sur un rétrovirus qui s'appelle HCLV, c'est la charge virale, donc la quantité de virus que vous avez provirale, la quantité de cellules infectées que vous avez dans le sang qui sera prédictive de sa capacité à entrer. Mais c'est un problème de proportion, de probabilité, on n'a pas assez de critères pour savoir exactement qui se tombera malade.
Après, on a aussi notre système immunitaire qui va rentrer en jeu, forcément, pour se défendre. On peut aussi avoir des prédispositions génétiques pour certains virus. Il y a ce qu'on appelle des facteurs de restriction qui vont empêcher certains virus de se répliquer. Ça, c'est propre à chaque personne. Et l'immunité, donc il y a plusieurs couches aussi. On a une première barrière qui est l'immunité innée, qui n'est pas spécifique, qui va nous défendre contre les micro-organismes pathogène. Et puis après, on a l'immunité qui s'appelle l'immunité adaptative, qui va être vraiment ciblée contre le pathogène en particulier. Et donc, tout ça, c'est un équilibre entre effectivement la charge de virus qu'on reçoit, l'efficacité à se défendre de notre organisme. Peut-être que Blandine,
Pour SARS-CoV-2, par exemple, on a découvert que certaines personnes étaient prédisposées à tomber malade parce qu'il y avait soit un défaut dans la une molécule de mécanisme de défense, l'interféron, soit ils avaient des cellules qui attaquaient la production d'interféron. Donc là, c'était des prédispositions génétiques. Après, aussi, moi, je travaille sur le VIH. En fait, on connaît maintenant le récepteur par lequel le virus rentre dans les cellules, par exemple. Et on sait que certaines personnes ont des mutations au niveau de ce récepteur qui font que le virus est incapable de rentrer dans les cellules. Mais ça reste très rare et on ne va pas séquencer et génotyper tout le monde pour savoir si on peut être infecté par le VIH ou non. Pas encore.
Pas encore. Non, mais je voulais juste rebondir sur le SARS-CoV-2. Il y a la réponse immunitaire donc, qui va être protectrice, mais après, quand elle s'emballe, c'est peut-être elle qui peut rendre malade. Vous savez, enfin, je suppose, vu qu'on a quand même beaucoup parlé, qu'il y a deux phases en fait, dans l'infection à SARS-CoV-2. Il y a la phase virale, proprement dite, donc les premiers jours, donc virémique, où là, on commence à développer une réponse antivirale. Et puis, parfois, chez certains individus, ça s'emballe. Et donc, vous avez une inflammation, et c'est ça qui donne ce deuxième pic, souvent à J10, et qui a emmené beaucoup de gens à l'hôpital. Donc, parfois, c'est pas tant c'est bien entendu le virus à l'origine, mais c'est un défaut ou un emballement de la réponse immunitaire qui peut être impliqué.
Et c'est fréquent ? C'est fréquent ou c'est spécifique à ce virus ?
Non, ça arrive aussi pour le virus de la grippe. Hein. C'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique, hein, où en fait, effectivement, il y a trop de cytokines qui sont produites par l'organisme en réponse au virus et ça dérègle tout. Donc, ce n'est pas spécifique au SARS-CoV-2, ça arrive avec d'autres virus, ouais, notamment le virus de la grippe, grippe aviaire. C'est un des, une des explications. Enfin, voilà pourquoi ce virus de la grippe est si, peut être si mortel.
Alors, dans nos moyens de défense et de manipulation, manipuler des virus pour attaquer des virus, c'est complètement loufoque. C'est...
Alors, des virus pour attaquer des virus, oui. on peut manipuler des virus pour attaquer autre chose, mais non, un virus, il a besoin d'une cellule pour se répliquer, donc un virus ne peut pas infecter un autre virus. Enfin, voilà, ça, c'est pas possible. Donc, par contre, on peut effectivement modifier des virus pour...
Il y a aussi des virus qui infectent des bactéries. Et ça, c'est un moyen thérapeutique qui est développé aujourd'hui. Ça s'appelle des phages. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de résistance aux antibiotiques en ce moment, donc ça, c'est une des voies thérapeutiques. Donc, dans les laboratoires, on étudie ces phages, donc ces virus de bactéries, par exemple. Donc, ça infecte les bactéries et ça les neutralise. Donc là, c'est encore... Enfin, on étudie tout ça. C'est pas encore très, très bien connu, mais c'est une voie thérapeutique.
Et après, en thérapeutique, on peut aussi prendre... C'est ça. On peut prendre les virus qui infectent les cellules tumorales, donc les cancers, pour essayer de les utiliser comme outil pour lyser les cellules cancéreuses et réduire la masse tumorale.
Lyser,
détruire, infecter et détruire les cellules cancéreuses et faire en sorte qu'elles disparaissent et qu'on développe une bonne réponse immunitaire contre le cancer. Et c'est en cours de développement. Alors ça marche pour certains cancers, moins pour d'autres, mais c'est vraiment une voie de recherche intéressante.
Il ne faut pas oublier aussi qu'on utilise aussi les virus comme vecteurs, à la fois pour produire des vaccins et pour faire de la thérapie génique. Les virus peuvent aussi aider pour le cancer, pour les vaccins, pour les maladies génétiques, pour les bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc en fait, on arrive à détourner les virus à notre profit, quoi.
Ouais, c'est un bon outil en fait. Même pour juste la recherche fondamentale, en fait, on utilise des virus très très souvent. Juste pour étudier d'autres mécanismes dans la cellule et tout ça. C'est un moyen pour faire exprimer, par exemple, un gène dans une cellule. On va utiliser un vecteur viral. Ce virus va, dans notre laboratoire, faire rentrer à l'intérieur du cellule un gène qui va exprimer une protéine d'intérêt. Et on voit ce qu'elle fait, cette molécule, dans cette cellule-là, par exemple. C'est un outil, c'est des outils. On s'en sert très souvent.
Alors évidemment, quand on voit les capacités que vous nous décrivez à manipuler les virus pour nous aider, l'idée immédiate, c'est est-ce qu'on peut faire des choses aussi dans l'autre sens ? Enfin, on le sait qu'on peut en faire dans l'autre sens, mais comment on contrôle ça ? Comment on maîtrise ça ? Et jusqu'où les romans de SF qui font très peur sont devenus possibles aujourd'hui ?
Alors déjà, tous les virus ne sont pas faciles à manipuler. Il y a certains virus pour lesquels, c'est vrai, on est capable, à partir du matériel génétique, de faire reproduire un virus à une cellule. Donc dans ces cas-là, c'est possible de modifier le matériel génétique du virus pour faire produire un virus un petit peu différent, par exemple, qui serait capable d'infecter une autre population ou quelque chose comme ça. Mais après, ce qui est un peu limitant aussi, c'est nos connaissances dans la biologie du virus. Comment prédire que telle mutation va faire que le virus va devenir comme ça ou comme ça ? Et c'est un peu ça qui est difficile à prévoir, en fait.
Oui, et il y a aussi le temps entre... Enfin, si vous voulez vraiment faire une guerre mondiale et arrêter l'humanité dans 2 semaines, le virus, c'est pas assez rapide. Il va falloir beaucoup plus de temps. Donc, il faut d'une part s'assurer que votre population est vaccinée pour éviter d'infecter votre population et avoir le temps, quoi. Donc, les infections virales tuent rarement en 10 jours. Enfin, certaines, oui, mais pas toute la population.
Il y avait eu des expériences sur la grippe aviaire, en fait, qui avaient été faites pour essayer d'adapter le virus à une transmission efficace chez le furet, qui est un bon modèle animal pour le virus de la grippe, parce qu'il reproduit assez bien la maladie chez l'homme. Et donc, des chercheurs avaient pris des virus de grippe aviaire et avaient infecté des furets, récupéré le virus quelques jours après, avaient infecté d'autres furets, et ainsi de suite. Ils avaient fait ça pendant 10 passages, on appelle ça des passages. Et puis à la fin, ils avaient récupéré un virus qui était capable de se transmettre efficacement par voie aérienne. Ce qu'au départ, le virus n'était pas capable de faire chez le furet. Et donc ça, potentiellement, ça pouvait devenir un virus dangereux parce que la grippe aviaire, c'est un virus qui est quand même assez mortel. Et là, il devenait en plus contaminant par aérosol. Donc là, ça pouvait vraiment devenir un virus dangereux. Donc ce genre d'expérience est évidemment quand même contrôlé. Il y a des comités en fait qui évaluent c'est des expériences qu'on appelle de gain de fonction. Et il y a des comités en fait qui vont justement vérifier qu'il n'y ait pas de dérive, que les choses sont faites de façon contrôlée. Et voire empêcher de faire certaines manips en disant ça c'est trop dangereux, il ne faut pas le faire. Voilà, donc ça c'est.
Oui, c'est très contrôlé, on ne peut pas. On ne peut pas encore faire ce...
Le chercheur fou dans son coin, on ne peut pas trop, en fait.
Et oui, on peut difficilement aussi imaginer installer un L3, n'est-ce pas, un laboratoire chez soi, ce n'est pas facile quand même.
Peut-être dans la cuisine, oui, ce n'est pas évident.
Il faut du matériel. Ce n'est pas si évident que ça de faire dans la cave un laboratoire.
Et il faut l'expertise, en plus. Ce n'est pas seulement avoir le laboratoire, il faut savoir le faire. Enfin, manipuler un virus, c'est... Voilà, c'est quand même pas si simple. Hein.
Ça se manipule comment, justement? Oula,
la question. Alors déjà, le virus, il ne vit pas tout seul. Il a besoin de cellules pour se répliquer, sinon il meurt. Donc on a besoin de cellules humaines ou animales qu'on peut manipuler dans nos laboratoires. Ces cellules-là, pour les maintenir en vie, il faut des conditions bien spécifiques, des nutriments pour qu'elles restent en vie, qu'elles se nourrissent en fait, qu'elles survivent. Donc on a des milieux spécifiques, température spécifique, 5% de CO2, ça me vient à l'esprit ça, il faut des conditions atmosphériques spécifiques qu'on retrouve dans le corps humain par exemple. Ça dépend des cellules qu'on utilise, mais les cellules humaines en tout cas c'est comme ça. Donc c'est pas si simple à manipuler.
Et on fait ça dans des laboratoires de confinement, donc selon la dangerosité du virus, on va avoir des laboratoires plus ou moins, enfin voilà... avec des SAS pour empêcher que le virus ressorte, etc. On travaille sous des postes de sécurité microbiologique qui nous protègent, qui protègent la manipulation. Enfin, voilà,
c'est assez lourd.
Voilà.
Donc, quand vous préparez une manip, concrètement, entre le moment où vous avez l'idée d'une manip et le moment où vous la mettez en place, il se passe combien de temps? Et est-ce que vous pourriez nous décrire un peu les étapes par lesquelles vous passez?
Je ne suis peut-être pas très doué, mais plusieurs années, souvent. En fait, tout dépend du type de manip. Si le but est de comprendre la fonctionnalité du virus, on peut juste en extraire une protéine, par exemple. Et ça peut aller relativement vite. Mais si on veut travailler avec un virus complet, souvent, moi, je travaille sur des virus qui se répliquent très mal, donc qui doivent être infectés par contact cellulaire, etc. On est parti très vite sur 6 mois, 1 an, pour tester une hypothèse. Et après, pour la vérifier, il en faut 4-5. Quoi.
Et puis, il faut avoir les sous.
Il faut avoir les sous.
Donc déjà, pour avoir les sous, pour le faire, il faut qu'on monte un projet. Il faut qu'on ait l'idée. On écrit tout un dossier. Enfin, on écrit un projet scientifique qui est évalué par des pairs. Voilà. Après, ça prend déjà pas mal de mois. Ça peut prendre 1 an déjà. Donc 6 mois, 1 an, il faut que ce soit accepté, il faut que ce soit financé. Et après, on a les moyens de tester nos idées. Voilà, donc ça prend du temps.
Après, si on veut tester l'effet d'une mutation sur un virus, voilà, en 1 mois, on peut avoir introduit la mutation dans le matériel génétique du virus, avoir produit les virus et tester l'effet sur des cellules, par exemple. Bon, après, si on veut faire du modèle animal, c'est un peu plus long, etc.
Oui, mais ça dépend des expériences.
Mais disons qu'on va dire qu'à partir du moment où on a le matériel génétique modifié du virus et qu'on veut le produire, en une semaine, 2 semaines, on peut avoir un stock de virus, déjà.
Quand il se réplique bien, oui.
Quand il se réplique bien.
Quand on a les bonnes cellules, pas contaminées.
Bien sûr. Ouais.
Donc, du coup, les guerres par virus interposées, vous n'y croyez pas?
On n'y croit pas. Disons que ça paraît assez complexe, mais...
Un des virus dont on a peur, c'est évidemment la variole. S'il pouvait ressortir, normalement, il a été détruit, mais bon, il est peut-être conservé dans quelques laboratoires militaires. Se poserait la question de devoir vacciner la population et empêcher la vaccination de la population en face. Non, je pense que les toxines sont beaucoup plus faciles que les virus à utiliser. Ouais.
Et j'avais vu un film, mais je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle, de science-fiction d'ailleurs, où ils faisaient des virus qui ciblaient vraiment une population très spécifique. Mais ça, clairement, je ne pense pas que ce soit faisable du tout. Par exemple, les Caucasiens versus... on n'a pas des gènes très spécifiques qu'on peut cibler avec un virus à l'heure d'aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est pas possible. Hein ? Je dis pas de bêtises. Hein ?
Heureusement. Pour revenir sur les idées de création de virus, quand vous créez des virus, est-ce que... Alors je ne sais pas si c'est ce que vous faites, mais quand vous les créez, est-ce que vous avez une idée très précise de l'effet qu'ils vont avoir, est-ce que vous avez un modèle qui vous permet essentiellement de prévoir les effets d'une modification d'un virus sur son action en fait?
Si on veut introduire une mutation, c'est qu'on teste, on cherche à tester quelque chose, donc on a potentiellement une idée de ce que ça peut produire sur le virus. Après, justement, toute la difficulté, c'est de se poser la question avant de commencer, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Et est-ce que je le fais ou pas ? Est-ce que ça peut être dangereux ou pas ?
Mais si je peux me permettre, la plupart de nos hypothèses sont fausses et c'est comme ça qu'on avance, hein, c'est le principe de la science. On a un modèle qui est très joli et après on va le tester. Et on le teste et nous, quand ça nous arrange, c'est quand ça ne marche pas. Parce que ça montre qu'on n'a pas compris le modèle et qu'on va pouvoir le faire avancer. Donc oui, on a des hypothèses a priori, mais le modèle qui en résulte est rarement le bon, enfin le même.
Ouais. Après, par exemple, je suis en train de penser au VIH parce que je travaille surtout sur le VIH. Il faut savoir qu'il a énormément muté, il y a énormément de mutations déjà qui est fait naturellement au sein de la population depuis des années et des années. Et le virus s'adapte pour se répliquer et il y a une sélection déjà naturelle qui est réalisée au niveau du virus. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, quand on introduit une mutation, nous, dans nos laboratoires, dans ce virus-là, il y a très peu de chances qu'il soit encore plus réplicatif, encore plus infectieux, parce que sinon, il l'aurait déjà fait, le virus lui-même, en fait. Donc, en général, c'est plutôt des mutations qui vont empêcher le virus de se répliquer. C'est plutôt délétère.
C'est vrai qu'il y a tous les variants pour le SARS-CoV-2, où là, il est en train d'accumuler encore plein de mutations. Parce qu'il est encore en train de s'adapter à l'homme, donc il est encore dans un processus d'adaptation. Et il y a des hypothèses pour expliquer, par exemple, l'apparition du variant Omicron. Une des hypothèses, c'est que le virus aurait pu passer chez des rongeurs et ensuite repasser chez l'homme. En fait, il a accumulé une certaine série de mutations qui avaient été observées chez les rongeurs. Et comme ce variant, Omicron, il est un petit peu à part du reste, enfin des autres variants de SARS-CoV-2, une des hypothèses, c'était que ce variant Omicron, en fait, serait passé entre-temps de l'homme à un rongeur et ensuite du rongeur à l'homme. Voilà, et ça, c'est une des hypothèses. On ne sait pas si c'est celle-ci la bonne, hein, mais...
Pour rebondir là-dessus, donc il y a quand même beaucoup de virus qui sont des zoonoses, donc qui viennent des animaux, et l'effet arrive dans l'autre sens aussi, hein, de l'homme vers l'animal, et... plus on aura tendance à aller dans la nature, à déforester et à changer l'environnement, plus on aura de risques de rencontrer des virus que l'on n'avait pas rencontrés a priori. Et plus la diversité animale dans le milieu sera faible, donc plus la biodiversité baissera, plus on risquera de voir émerger des virus, puisqu'on aura moins de diversité génétique, donc moins d'animaux susceptibles de résister au virus. Et donc, on explique comme ça l'apparition de zoonoses de plus en plus fréquentes par le fait que, en détruisant l'environnement, on favorise l'interaction avec des virus qu'on n'aurait pas rencontrés sinon, si on était resté tranquillement chez nous. Quoi.
Donc, il faut plus bouger.
On n'est peut-être pas obligé d'aller au fond de toutes les caves ou détruire toutes les forêts.
Les caves,
ça, c'est pour les chauves-souris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de virus qui sont présents chez les chauves-souris, qui sont un gros réservoir viral, parce qu'elles ont un système immunitaire qui leur permet de résister, donc d'être comme des porteurs asymptomatiques de plein de virus. Donc on retrouve plein de familles virales chez les chauves-souris, et donc c'est notamment de là qu'est sûrement parti le virus du SARS-CoV-2. On ne sait pas s'il y a eu un autre intermédiaire ou pas. La rage, Ebola, ça vient des chauves-souris aussi. Donc il y a vraiment plein de virus qui ont pour origine la chauve-souris. Voilà.
Parce qu'elle est capable de se défendre.
Voilà, c'est ça.
Et on peut pas, et on ne pourrait pas s'inspirer des défenses de la chauve-souris.
Alors si, c'est étudié justement tout ce qui est immunité innée, donc la première ligne de défense chez les chauves-souris, ça c'est vraiment quelque chose qui est étudié pour essayer de comprendre pourquoi elles arrivent à résister au virus si facilement. Donc oui, il y a des études là-dessus qui sont faites.
Évidemment, la question que je vais poser, on en est où?
On en est où de quoi?
De ces études?
Au début.
Au début. Ben oui, parce qu'il faut, il faut pouvoir cultiver des cellules de chauves-souris. Donc, il faut aller faire des prélèvements de chauves-souris, essayer de mettre leurs cellules en culture. Parce que si on veut étudier les virus des chauves-souris, il faut avoir les cellules dans lesquelles se multiplient ces virus au départ. Donc là, il manque encore plein de modèles pour travailler.
Et d'outils. La plupart du temps, on utilise des anticorps pour reconnaître des protéines, des choses comme ça. On en a plein contre les protéines humaines parce qu'on les travaille depuis des dizaines d'années. Contre les chauves-souris, il y en a déjà beaucoup moins. Donc, on les détecte moins facilement. Donc pour les étudier leur rôle, c'est moins facile.
Donc, essentiellement, les chercheurs dans les prochaines années, ou en tout cas les jeunes qui se destinent à la recherche dans les virus, on leur proposera de travailler sur les chauves-souris.
C'est possible, oui.
oui, et tous les réservoirs identifiés. Les singes, ils sont... On est très proche quand même au niveau génétique aussi. Donc, l'adaptation est peut-être est plus facile. Donc, y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Et c'est dans l'avenir, en prévention, prévention d'une émergence virale comme SARS-CoV-2 ou autre, il y aura beaucoup d'études faites là-dessus, espérons.
Alors, avant de laisser la parole au public, puisqu'on est dans l'espoir, cette pandémie a eu un effet visible pour vous sur l'attachement des pouvoirs publics à financer vos recherches ?
Nos recherches sur SARS-CoV-2, le virus du Covid, oui.
Oui. Les autres recherches. Au sens plus large.
Comment dire ?
Il y a un léger effet de mode, si
on peut
dire.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup d'argent pour SARS-CoV-2 et du coup, on a un peu délaissé le reste aussi. Donc, il ne faut pas oublier que la prochaine pandémie, ce ne sera peut-être pas un coronavirus, ce sera peut-être un virus de la grippe. Et si plus personne ne travaille là-dessus, lorsqu'il y aura une prochaine pandémie avec un virus grippal, on ne saura peut-être pas quoi faire. Donc, faut pas non plus tout abandonner les recherches sur les autres virus à côté, sur Ebola, c'est vrai qu'il y a eu un peu un effet de mode avec plein de moyens, donc ça a été super parce que ça nous a permis vraiment de trouver plein de choses,
d'avancer vite, surtout.
Il faudrait de l'argent à plus long terme,
C'est la réponse à une urgence. Maintenant qu'on essaie de prévenir ou de se préparer à la suivante, parce qu'il y en aura d'autres. Ce serait bien d'investir dans d'autres, dans la recherche en général.
Avant l'émergence de l'épidémie.
Je vais laisser la parole au public. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Alors, j'en vois plusieurs. On va attendre que le micro arrive. Alors, quelque part par ici, par exemple, voilà.
Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, je me posais une question, en fait. Est-ce qu'on a une idée ou est-ce qu'il y a un modèle qui permet de schématiser l'équilibre qu'a l'évolution d'un virus entre la dangerosité pour l'autre et sa viralité? Est-ce qu'il y a un point d'équilibre précis qui est atteint à un moment de l'évolution ou est-ce que c'est complètement différent, quel que soit le virus?
Il y a quelque chose que vous entendrez sûrement, que vous avez déjà entendu, c'est que plus le virus reste en contact avec son hôte, plus il est atténué, on dit. Donc moins il sera virulent. À cela près qu'il y a un problème d'échelle de temps. L'adaptation d'une population, ce n'est pas l'adaptation d'un individu. Donc l'adaptation se fait par écrémage de la population non résistante. D'accord ? Donc oui, sur le long terme, il y a une adaptation, une coévolution. Mais qui suppose une mortalité assez importante dans la population qui fait que les gens résistants survivront. Et il y a comme ça des crémages, des nouveaux gènes qui apparaissent dans la population. Mais à court terme, alors certes, ça a marché ou ça semble avoir marché sur SARS-CoV-2, encore que faut pas oublier l'impact du vaccin. mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose qui, sur le court terme, soit valable.
Oui, et je pense que ça dépend vraiment aussi des virus, car le VIH, encore une fois, se multiplie très rapidement et acquiert énormément de mutations, alors beaucoup plus que SARS-CoV-2. Et il y a des virus qui se répliquent plus doucement ou qui ont un plus gros génome ou qui sont plus exacts dans leur réplication, donc qui introduisent moins d'erreurs et donc moins de mutations. Après, il faut savoir que les virus aussi beaucoup plus mortels, entre guillemets, oui, comme Ebola ou les choses comme ça, bah, ils n'ont pas le temps, l'adaptation est un peu... c'est pas évident de s'adapter quand on... enfin, voilà, quand il y a autant de mortalité, quoi. Donc oui, ça dépend aussi pas mal... type du virus, de pas mal de facteurs.
Donc il n'y a que des cas particuliers et pas de général, pas de généralité.
C'est difficile de prédire en tout cas. Il n'y a pas vraiment un modèle exact pour tous les virus.
C'est vrai que pour la grippe, c'est aussi un peu comme le SARS-CoV-2, ça a tendance aussi à... La dangerosité du virus a tendance à s'atténuer avec la transmission, enfin le temps où le virus est présent chez l'homme, le virus a tendance à s'atténuer quand même. C'est rarement dans l'autre sens en fait, mais c'est vrai que ça dépend des virus.
Une autre question, monsieur ?
Oui, bonjour. Vous n'êtes pas vieux tous ici, mais justement, depuis vos études et là où vous en êtes actuellement dans vos carrières, est-ce que vous avez déjà pu percevoir certaines orientations de la recherche ou sans chasse dans vos domaines, la virologie, qui aurait décliné, au contraire, des nouveaux axes de recherche qui vous semblent prometteurs, de nouvelles orientations? Et la deuxième mini-question, c'est, avez-vous vu le documentaire qui est passé sur Arte la semaine dernière qui s'appelle « Des vaccins et des hommes » Et si oui, voilà, qu'en avez-vous pensé? Merci.
Non, moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas.
Je ne l'ai pas vu non plus.
Non, pas de chance, on ne pourra pas rebondir là-dessus. Il faudra expliquer ce qu'il y a dedans et on en parlera après.
On regardera en replay.
On va aller voir.
La première question était... Ah, des changements.
Les changements dans la recherche.
Alors, les changements dans la recherche, elle est, à mon avis, enfin, ce que j'en perçois, de plus en plus technologique, de plus en plus screen, de plus en plus... On essaie d'avoir quelque chose de plus en plus global par une inspiration des grands laboratoires qui ont plein d'argent, ce qui pose problème aux laboratoires qui en ont un peu moins. C'est à peu près la seule...
Oui, après aussi, comme tu disais tout à l'heure, il y a des effets un peu mode. Parce que j'ai fait ma thèse sur le VIH, après j'ai travaillé sur Zika parce qu'il y avait la pandémie Zika. Après, du coup, j'ai travaillé sur SARS-CoV-2 parce que aussi on suit un peu les financements. Après, j'ai toujours travaillé sur le VIH, par conviction. Ouais. Donc il y a un peu des effets de mode comme ça. Après, je pense que ouais, tu as raison, ça devient de plus en plus multidisciplinaire. Et on essaye d'aller faire quelque chose de beaucoup plus translationnel aussi, de travailler de plus en plus aussi avec le privé pour aller enlever les barrières qui existent entre les laboratoires de recherche fondamentale publics et puis les laboratoires privés qui développent ensuite les thérapies. Donc on essaye d'aller vers quelque chose de beaucoup plus translationnel, on appelle ça.
Bon, par exemple, les virus oncolytiques, nous, quand on était étudiants, voilà, personne ne savait, enfin, on n'avait pas eu l'idée de ça encore. Donc, il y a quand même des pistes qui n'existaient pas quand on était étudiants et qui maintenant sont vraiment très prometteuses. Donc, les virus oncolytiques, la phagothérapie, le microbiote, tout ça, c'était des choses qui, nous, quand on était étudiants, on n'en avait jamais entendu parler, quoi. Donc,
Et l'information, du coup, circule par le biais des conférences, des publications. C'est comme ça que vous vous formez ? Aux nouvelles approches?
Bah oui, on lit la littérature scientifique, on s'intéresse, on est toujours curieux. Hein.
Et c'est là où on est peut-être un peu vieux, parce que la nouvelle génération regarde surtout sur Instagram les publications, alors que nous, on va sur Internet chercher...
C'est vrai que maintenant, il faut être sur Twitter pour savoir les derniers articles à la mode. C'est vrai que maintenant, c'est comme ça qu'on est au courant des dernières nouveautés, c'est par Twitter.
C'est vrai encore plus rapide. Depuis SARS-CoV-2, là, j'ai vu vraiment Twitter. J'avais pas compte avant.
C'est ça. Maintenant, on est un peu tous obligés d'avoir un compte parce que sinon, on n'est pas au courant des dernières nouveautés aussi vite que le reste de la communauté, quoi. Donc.
Il y a des gens qui résistent.
Encore ?
J'y vais pas tous les jours non plus.
Une autre question, peut-être par ici ?
Monsieur. Bonjour. Tout à l'heure, vous disiez que pour comprendre un virus, il suffisait d'extraire la protéine. J'ai peut-être pas bien compris. Et est-ce que du coup, il y a une certaine bijection en quelque sorte, donc plusieurs virus peuvent extraire la même protéine ou quelque chose comme ça?
Alors, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai essayé de réexpliquer. Souvent, on étudie protéine par protéine parce que c'est plus simple. Dans le cas de l'HTLV, donc le virus que j'étudie, il y a une protéine qu'on sait être à l'origine du cancer, donc on va pouvoir l'étudier spécifiquement. Après, est-ce qu'il y a une bijection? On se rend compte qu'en fait, les virus, quelle que soit la famille, finissent par interagir avec globalement les mêmes protéines, vu que dans nos cellules, globalement, de façon très générique, hein, on a globalement les mêmes protéines. Donc, si vous cherchez, quand vous étudiez un virus oncogène, quelle que soit sa famille, il va finir par, on dit taper sur les mêmes voies, il va interagir avec des protéines de la même voie, et donc, en général, oui, il y a quand même une convergence dans les mécanismes, en tout cas de l'oncogénèse. Hein, je ne parle pas en général. Donc, en étudiant deux, trois, justement, en étudiant plusieurs virus oncogènes de familles différentes, ça vous permet de savoir quelles sont les voies les plus importantes là-dedans, et pourquoi pas par la suite, mais ça c'est à long terme, développer des traitements qui pourront aider à traiter plusieurs cancers. C'est un peu l'espoir qu'on a.
Il y a une question juste derrière.
Bonjour. J'ai l'impression qu'on parle toujours des virus de façon très négative, à part quand on les utilise volontairement en tant qu'être humain, mais je parle dans le règne du vivant. Et j'ai un peu l'impression de retrouver les bactéries avant qu'on nous montrait comme ennemis. Et je voulais savoir, un monde sans virus, ça serait quelque chose de bien? À part vous mettre au chômage, ça... Mais à part ça, je veux dire, où est-ce que les virus ont un rôle important à jouer, positif?
Alors, les virus sont très importants, vu qu'ils façonnent qui nous sommes. Et nous avons en nous des anciens virus qui se sont intégrés dans notre génome et qui nous aident dans nos défenses ou dans notre développement. Donc, on appelle ça des rétrovirus endogènes. Donc, ça, c'est un exemple, hein. Et ceux-là, on a pu récupérer leurs protéines d'enveloppe, leurs protéines de surface, et l'utiliser pour faire des fusions. En gros, le placenta est rendu possible par une infection rétrovirale ancienne. Donc non, les virus sont importants. La majorité des virus ne sont pas pathogènes, ce ne sont pas nos grands ennemis. Et on se rendra compte, je pense que par le phage, on s'en rend compte, en fonction du phagosome, donc des bactériophages que vous avez en vous, vous allez ou pas être susceptible à une infection par des bactéries. Donc non, ça peut vous protéger.
Ça participe à l'évolution, comme tu disais. Et le microbiote, dans le microbiote, il y a des virus, hein, il y a des tonnes de virus.
Donc on est systématiquement porteur sain d'un nombre de virus assez impressionnant.
Oui, oui.
Ah. Et de bactéries aussi, du coup, puisque le microbiote, évidemment, il y a aussi.
Il y a à peu près 10 fois plus de bactéries que de cellules. Il y a à peu près 10 fois plus de virus que de bactéries. Donc vous imaginez... Nous les transportons en permanence.
On a tous les mêmes?
On ne les connaît pas tous aussi.
Non, on n'a pas tous les mêmes, parce que ça dépend de votre environnement, de votre alimentation, de votre histoire. Est-ce que vous avez été allaité ou pas, etc. Non, c'est une marque de notre histoire, de notre société, de notre famille, souvent.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'en vois une quelque part, oui. Par là-bas. Ah.
Bah, j'ai le micro, donc je vais poser la mienne.
Je ne vous vois pas.
Je suis là.
Ah, très bien.
Voilà, ma question est, donc depuis quelques décennies, on voit quand même apparaître des virus mortels ou en tout cas assez méchants de plus en plus. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que c'est une réalité? C'est-à-dire qu'on est dans une ère où, effectivement, on a une émergence de virus de plus en plus importante, liée au réchauffement climatique, liée à la proximité avec les animaux sauvages, en fait. Et, est-ce que c'est une réalité?
Oui, je pense que c'est une réalité. Effectivement, du fait qu'on soit de plus en plus en contact avec les animaux sauvages, etc., ça favorise l'émergence de nouveaux virus. On a aussi de meilleurs moyens de détection qu'on n'avait pas forcément avant. Donc ça, c'est vrai qu'il y avait peut-être des choses qu'on ne détectait pas avant parce qu'on n'avait pas les moyens de les détecter.
Et la mondialisation, je vous parlais de l'importance des transports.
Oui.
Le fait que l'on puisse aller d'un côté à l'autre de la planète en quelques heures facilite évidemment le transport des humains, mais aussi des virus, évidemment. Il y a trois facteurs, en effet. Le changement climatique, surtout s'ils sont vectorisés, enfin s'ils sont portés par des moustiques, par exemple, parce qu'il y a du moustique tigre maintenant en France qu'il n'y avait pas forcément avant. L'écologie et les transports, la globalisation.
Oui, il y a plein de virus qui ont émergé il y a longtemps, mais qui sont restés isolés. Je pense au virus Zika. Il a émergé chez l'homme en 1946. Voilà, mais c'était confiné en Afrique, avec des populations qui étaient assez isolées et donc qui ne rentraient pas forcément en contact. Enfin, voilà, du coup, ça rejoint... Il y a beaucoup plus de mixité et voilà, donc, du coup, de propagation.
Il y a de la réémergence virale aussi, quoi. C'est pas que de l'émergence de nouveaux virus, il y a aussi des virus qui réémergent.
Voilà. Réémerger, plus précisément ?
C'est-à-dire qu'ils vont réapparaître, ils ont existé, ils ont à peu près disparu. On peut prendre l'exemple du virus de la polio, par exemple, qui était quasiment éradiqué, et l'absence de vaccin fait que le virus va pouvoir de nouveau se repropager et refaire des épidémies alors qu'on pensait en être quasiment débarrassé.
Et donc, c'est qu'il existait à bas bruit quelque part,
oui,
et
oui,
qu'on ne l'avait pas repéré.
Bah là, pour la variole du singe, c'est un petit peu ça aussi. Il y a eu des cas d'infection humaine à la variole du singe en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Mais là, en ce moment, ce qu'on vit, c'est une réémergence finalement. Et voilà. Donc là, il y a du fait de la mondialisation aussi, le virus s'est retrouvé dans une centaine de pays. Je crois qu'on est à peu près à 75 000 cas. Là, c'est en train de redescendre, mais voilà. Et donc ça, c'est peut-être aussi du fait qu'on a arrêté la vaccination contre le virus de la variole, qui fait qu'à l'époque, quand les gens étaient vaccinés contre le virus de la variole, ça protégeait indirectement contre la variole du singe. Mais que là, toute la jeune génération, enfin, je pense qu'aucun de nous trois ne sommes vaccinés contre la variole. Voilà. Donc du coup, maintenant, les jeunes populations ne sont plus vaccinées. Et c'est ça aussi qui a pu permettre la réémergence de la variole du singe.
Est-ce qu'il y a une dernière question, probablement, ici ?
Bonjour. Alors, peut-être que vous en avez parlé en début de conférence, car je suis arrivé en cours. Mais vous aviez dit que les virus qui seraient d'origine extraterrestre, on ne devrait pas tant s'inquiéter que ça, car il se pourrait qu'ils ne seraient pas compatibles avec notre organisme. Mais est-ce qu'on peut appliquer ce même raisonnement aux virus emprisonnés dans le permafrost qu'il y a en Sibérie ? Ou est-ce qu'on a à craindre de ces virus ?
C'est ce que j'expliquais au début, effectivement, c'est que ces virus-là sont probablement non infectieux, en fait. La conservation dans le froid, c'est quand même pas une méthode à si long terme pour un virus, c'est quand même assez fragile, même s'il y a certains virus, peut-être, il y a plusieurs types de virus, des virus qui sont enveloppés, non enveloppés. On sait que les virus enveloppés sont plus fragiles que les virus non enveloppés, donc il y a peut-être certains virus qui pourraient résister mieux que d'autres. Mais c'est pas du tout garanti qu'on arrive à récupérer un virus encore vivant, entre guillemets, du permafrost.
Et pour vous donner une idée, on peut détecter du génome de Néandertal dans des os. Néandertal ne va pas ressortir du sol. C'est un peu la même idée. On a des restes et c'est ça qu'on détecte, mais on n'a pas encore vu, en tout cas pour l'instant, de virus qui pouvait nous infecter directement.
Et puis surtout, ça va réchauffer doucement, donc ça, c'est pas bon pour le... c'est pas bon pour les protéines en général. Si ça réchauffe trop doucement, ça risque de perdre un peu de fonctionnalité. Donc faudrait que ça réchauffe un peu plus vite que ça, peut-être qu'on aurait une chance.
Et je rebondis là-dessus, évidemment, les archéologues ou autres qui découvrent des squelettes et qui respirent une poussière qui les contamine, ça, pareil,
c'est assez peu probable. Hein. Ouais.
On a encore le temps, allez, une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Pas de dernière question ? Du coup, avant... On a quelques minutes quand même. J'ai envie de vous laisser la parole tout simplement pour les choses que vous auriez eu envie de dire et que vous n'avez pas eu l'occasion de dire pendant cette table ronde, ou des messages que vous souhaiteriez faire passer au public concernant typiquement la protection contre les virus.
Deux messages. Pour les jeunes, faites de la bio. Et pour les plus vieux, donnez de l'argent à la recherche. Voilà. Merci.
Ça, c'était le message de Philippe. Blandine ?
Je réfléchissais à la dernière question au niveau du réchauffement climatique. En fait, Il y a la décongélation des sols et tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est les moustiques, par exemple, et toutes les populations animales qui changent à cause du réchauffement climatique. Et ça peut apporter éventuellement des maladies dans des endroits, dans des nouveaux endroits, tout simplement. Je pensais à ça, au réchauffement climatique. C'est plutôt ça, à mon sens, qui est le plus grand risque.
Donc le palu en France, c'est pas impossible.
Ça va revenir, peut-être. Ouais, ça, c'est un des risques, à mon avis, majeurs. Plus que les petits virus congés dans le sol, ouais. Beaucoup plus sérieux. Voilà, et puis...
Juste pour ça, il y a des cas de dengue autochtone, donc c'est-à-dire de transmission par des moustiques du virus de la dengue en France. Ça existe. Alors, tout est fait pour réprimer au maximum, mais ça existe malheureusement déjà.
Sandy, le mot de la fin ?
Continuez à vous protéger des virus. voilà, il n'y a pas que les vaccins, il y a aussi voilà, tout ce que vous avez appris pendant la pandémie. N'oubliez pas tout. voilà. C'est quand même un bon moyen de se défendre aussi.
Merci beaucoup à vous. Merci à vous d'être resté avec nous. Et bonnes utopiales.